Je vous invite donc à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier d'être tous réunis aujourd'hui pour pouvoir te louer, te célébrer et nous édifier librement dans ta maison. Nous te prions pour que ton Saint-Esprit agisse en nous et qu'il nous permette de vivre pleinement ta parole. C'est avec humilité que nous nous plaçons devant toi pour que ta lumière nous guide et nous éclaire. Amen. J'ai intitulé cette prédication « Dieu nous appelle à ». Vous attendez peut-être la suite, hein. Mais le titre s'arrête bien là. Vous pourriez donc être interpellé par ce titre, et ça serait normal parce que ça ne fait pas une phrase. Ça laisse une phrase incomplète. Mais depuis quelque temps, une pensée revient sans cesse dans mon cœur, celle de savoir ce que Dieu nous appelle à être. Être en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, ou en tant que corps de Christ. Je me dis que cette question, j'aurais dû me la poser il y a presque 20 ans, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit. Car ma crainte maintenant est de me rendre compte d'avoir fait fausse route pendant tout ce temps. J'aimerais donc ce matin que nous puissions réfléchir à ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens. Pour ma part, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années maintenant. Mais après, quelle est la suite? Qu'attend le Seigneur de moi? Nous pourrions même nous poser la question afin de savoir si Dieu attend vraiment quelque chose de nous. Et si oui, que devons-nous faire? Une autre interrogation qui me frappe depuis quelque temps est une phrase que j'entends régulièrement. Je suis chrétien et donc je dois faire des choses pour Dieu. Moi-même, je me suis retrouvé dans cette phrase en me disant qu'étant héritier du royaume de Dieu, je devais travailler pour ce royaume. Rien de plus normal, d'autant que dans la Bible, nous retrouvons des versets comme « La moisson est grande, mais peu nombreux sont les ouvriers » ou encore « La parabole des talents qui nous encourage à utiliser nos dons ». Alors, au regard de ces versets, il faudrait dès à présent se retrousser les manches pour prendre part à l'œuvre de Dieu, car c'est là sa volonté. Par la même occasion, nous pourrions alors compléter le titre de cette prédication et dire que Dieu nous appelle à le servir concrètement en faisant plein d'œuvres. Alors je vous rassure, c'est pas la fin de la prédication. On pourrait effectivement s'arrêter là et se conforter et se rassurer en se disant « Ouf, tout ce que j'ai fait pendant ces années est en phase avec la parole ». C'est vrai, j'ai fait plein de choses pour Dieu, je suis sur la bonne route et je peux continuer. Et si je m'arrête qu'à ces versets, qui sont, je vous l'accorde, sortis hors du contexte général de la parole, on pourrait dire oui. Mais si nous lisons attentivement ce qui est écrit, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu nous demande d'être. Car si notre engagement dans une action précise est bien en ligne avec la parole, celle-ci ne répond pas à ce que Dieu nous appelle à être en premier. Au contraire, ce qui est décrit plus haut, c'est-à-dire de se mettre en action pour faire des œuvres, serait plutôt la fin du processus. Et de plus, il s'agirait du moins important. Bien souvent, ce besoin de servir, de se mettre en mouvement, de faire des actions concrètes pour Christ, peut devenir la raison première de notre vie chrétienne. Ce qui fait que nos actions ou ces œuvres n'ont pas la pleine puissance que le Seigneur voudrait. Et pire, elles peuvent se retrouver vides de sens. Ce problème de discernement peut nous perturber et nous faire manquer la véritable vie que le Seigneur souhaite pour nous. C'est ce qui peut faire que notre marche n'en est pas une et que nous restions sur place pendant parfois bien trop longtemps. Notre nouvelle naissance est la première étape vers un long chemin qui doit continuer tout au long de notre vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce programme n'est pas un programme que d'un seul jour, mais c'est un programme pour tous les jours de ma vie. Alors posons-nous la question, à quoi Dieu nous appelle ? Regardons au travers de la parole comment Dieu nous appelle à vivre notre vie chrétienne et la place que nous devons prendre. Pour cela, je lirai trois textes. Le premier se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le deuxième se trouve dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le troisième est dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est important de rappeler l'essentiel, le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi et ma nature de pécheur. Cette action de grâce est l'élément déclencheur. C'est un point de bascule qui me fait passer de la mort à la vie. Par ce sacrifice, Dieu souhaite nous réconcilier définitivement avec lui et effacer notre ardoise. La marque du péché, indélébile, présente depuis la désobéissance d'Adam et Ève, est maintenant anéantie par l'œuvre du Christ à la croix. Il est important de comprendre qu'aucun autre chemin, aucune autre action, aucune offrande n'est une alternative pour bénéficier de la grâce divine. Comme Monique nous l'a rappelé, il y a un seul chemin, et ce chemin-là, c'est Jésus. Dieu nous appelle à suivre cet unique chemin, c'est-à-dire nous abandonner notre vieille nature, laisser notre chair souillée à la croix, et accepter Jésus-Christ comme sauveur et unique Seigneur. Voici l'appel que Dieu nous propose. Et lorsque nous acceptons cette grâce, que nous la faisons nôtre, au moment où Dieu nous régénère, il se produit un changement dans notre existence. Paul parle du bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par l'Esprit Saint. Nous ne pouvons plus pratiquer le péché de manière habituelle, parce que la puissance de la nouvelle vie spirituelle en nous nous empêche de mener cette vie de péché. Ce changement constitue une étape de ce que l'on appelle la sanctification. C'est la première étape. Il implique une rupture définitive avec la domination et l'amour du péché, de sorte que nous ne soyons plus esclaves du péché et que nous n'aimions plus péché. Dans la pratique, cela signifie que nous acceptons deux vérités. D'un côté, nous ne pourrons jamais dire « Je suis totalement libre du péché » parce que notre sanctification ne sera jamais achevée ici-bas. Mais d'un autre côté, nous ne pourrons jamais dire, par exemple, « Ce péché est plus fort que moi. Je renonce à me battre. Les autres n'ont qu'à s'en accommoder. Et ils peuvent m'accepter comme je suis, au final. » Dire une chose pareille, c'est reconnaître la domination du péché dans ma vie et s'avouer vaincu et accepter qu'il règne encore dans mon corps. C'est donc par l'Esprit Saint que nous avons reçu, lorsque nous sommes morts à la croix, pour revivre dans le sang de Christ, que cette transformation a eu lieu. Car le Saint-Esprit me révèle les Écritures, et c'est donc la première étape de ma vie chrétienne. J'aimerais vraiment souligner l'importance ici, la compréhension du Saint-Esprit, car cette notion est vraiment fondamentale. Faire abstraction de l'Esprit Saint dans ma vie me fait passer d'une vie de foi à une vie qui n'a pas de sens. Et pour cela, en fait, je souhaitais vous faire partager un témoignage que j'ai partagé à certains d'entre vous, donc ça sera une redite. Mais je suis convaincu que Dieu conduit notre vie dans les bons moments, dans les moments difficiles. Mais quel que soit ce moment, en tant que chrétien, Dieu nous donne l'opportunité de vivre des choses avec lui. Et en tant que chrétien, il est important de témoigner de ces choses, de dire ce que Jésus a fait pour nous et de dire ce que Dieu fait. Car ça fait passer cette dimension de parole de Dieu à une parole de vie, quelque chose que nous vivons vraiment. Alors je vais mettre quelques circonstances, parce que lorsque j'ai partagé ce moment, ce témoignage, il a pu interpeller certaines personnes. Et c'est vrai que si on ne prend pas un petit peu de hauteur, on peut se dire que c'est complètement absurde. Mais je dois vous dire que pour moi, il a eu cette conséquence de me faire ouvrir les yeux et de faire que je me rappellerai toujours de cette expérience et que ça sera vraiment une expérience de foi. Nous sommes allés en Suisse, pour ceux qui le savent, avec Iris Hugon et certains jeunes qui font la chorale Aquarium. Et nous étions invités dans le cadre d'une mission qui regroupe plusieurs dénominations d'églises. Alors nous avons su bien plus tard, à la fin du week-end, que la totalité des églises présentes étaient des églises réformées de France, réformées suisses et luthériennes. Et nous étions le seul groupe d'évangéliques. Nous avons passé donc 2 jours dans un événement réformé suisse. Et à la base, nous pensions vivre une unité entre frères et sœurs en Christ, comme ce que nous pouvons vivre des événements comme Made in France, What the Face ou autre, des choses où on peut partager notre foi. Mais très rapidement, nous avons compris que ce que nous allons vivre n'était pas du tout en relation avec ce que nous croyons. Et même, on s'est même posé la question si nous parlions de la même foi en Christ. Alors j'aimerais quand même apporter une précision pour enlever toute crispation qu'il pourrait y avoir. Le problème ne venait pas des dénominations d'église, mais bien ce que celle-ci annonçait comme étant la vérité. Le problème est plus là. Et ce qui a été dit, et je vous cite tout ce qui est une partie de ce qui a été dit, sinon ça serait bien long et on n'aurait pas le temps de tout voir. Mais ce qui a été proclamé, c'était que l'homme n'était pas si mauvais que ça, qu'il était important de prendre part à des œuvres sociales. Et je vous cite une partie d'une interview d'un des responsables de cet événement qui a été retransmis sur les chaînes télévisées suisses, qui disait « Lire la Bible et parler de Dieu tout le temps n'est pas le centre de notre vie réformée. » Voilà. En résumé, ce que nous avons vécu. Durant tout l'événement, nous n'avons pas entendu une seule fois parler du Saint-Esprit, et à peine de Jésus, et encore moins de l'œuvre de la croix pour abolir mon péché. Moi-même, j'étais choqué, mais les jeunes qui m'accompagnaient étaient interpellés par ce qui était annoncé, que ce soit par les participants, les pasteurs et les théologiens. Pour ma part, vraiment, je me sentais mal à l'aise, voire même souillé de ce que j'étais en train de vivre. Mais cet événement m'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui me semblait vraiment évident. En tant qu'évangélique, nous proclamons la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, car nous vivons ce qui est écrit dans la parole. Mais ce séjour en Suisse m'a fait comprendre que ce que je prenais pour un fondement de la foi chrétienne n'était pas une réalité pour tout le monde, d'où la nécessité de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Car si vous enlevez le Saint-Esprit, oui, vous pourrez parler de Dieu, oui, vous parlerez de Jésus, mais vous passez à côté de la puissance de l'alliance que Jésus est venu accomplir pour nous. Car sans le Saint-Esprit venu sur nous pour habiter en nous et travailler notre cœur, alors la parole perd son sens. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous qu'il nous permet d'avancer vers une vie de sanctification. La nécessité de la sanctification est appelée et rappelée aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, car elle concerne tous ceux qui sont appelés à vivre dans une vraie communion avec Dieu. En fait, elle conditionne toute notre vie par rapport à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance avec Israël, l'Éternel demandait à son peuple de se sanctifier pour s'approcher de lui et le servir. Nous pouvons le lire dans Lévitique 19 et un peu plus tard vers le chapitre 20. « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Et un peu plus tard dans le verset 20, « Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. » Il en est de même pour le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16, il est dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Cette exhortation de l'apôtre Pierre n'a pas besoin de commentaire. Nous comprenons ce que Dieu attend de la part de ceux qu'il a sauvés par sa grâce. Nous voyons que de tout temps, Dieu appelle son peuple à être saint. La Bible nous dit donc que la volonté de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. C'est pourquoi nous devons rechercher celle-ci. Il est nécessaire du coup de comprendre ce que le mot sanctification veut dire. Être sanctifié, c'est être mis à part, être consacré, être vu comme saint. Il s'agit donc d'une séparation entre tout ce qui est profane. En effet, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, par le sang de Jésus et aussi par le Saint-Esprit. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 10, « Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dieu a tout accompli. » Si nous sommes passés par la nouvelle naissance, alors nous sommes le temple de Dieu. La première étape de la sanctification est donc celle faite par Dieu lui-même dans nos vies, par sa souveraineté et par le fait que nous lui appartenons. Et parce que nous avons été sanctifiés par Dieu, nous devons donc nous préserver des souillures de ce monde. Il s'agit là d'une deuxième étape, la deuxième étape de la sanctification qui devient pratique dans notre vie au quotidien. Car ce que l'on s'y est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, notre sanctification n'est pas encore achevée et elle doit continuer jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Jésus-Christ. Si la sanctification a un commencement, elle a aussi un processus qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne. Notre rôle dans ce domaine est de progresser toujours de plus en plus. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devenons progressivement semblables à Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu dans les Écritures, le chrétien est encouragé à cultiver sa sainteté. Et les citations bibliques pourraient être multipliées, car dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets qui expliquent aux chrétiens comment grandir et ressembler au Christ. Parce que le péché ne disparaîtra jamais complètement de nos cœurs, notre sanctification ne sera jamais achevée dans cette vie. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur, elle sera terminée, parce que nos âmes seront alors libérées du péché et elles seront rendues parfaites. L'apôtre Paul explique aux Philippiens que Dieu agit en eux pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Ce que nous pouvons lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Dieu les sanctifie et les pousse à désirer sa volonté en même temps qu'il leur donne le pouvoir de l'accomplir. Et c'est particulièrement le Saint-Esprit qui agit en nous pour nous changer et pour nous sanctifier. Et qui produit en nous aussi les fruits de l'Esprit que nous lisons en Galates. Ces traits de caractère qui sont le signe d'une sanctification de plus en plus profonde. Notre rôle de chrétien est à la fois passif et actif. Nous dépendons de Dieu pour notre sanctification et nous nous efforçons de lui obéir. Notre être tout entier est ainsi touché par la sanctification. Notre intellect, notre connaissance, nos sentiments, nos désirs, notre volonté, notre esprit et même notre corps. La sanctification fait donc partie de notre vie chrétienne. Elle est une marche constante du début de notre nouvelle vie en Christ jusqu'à mon dernier soupir. Alors, maintenant qu'on a vu l'importance de la sanctification, comment puis-je la mettre en pratique dans ma vie ? Eh bien, par rapport à tout ce que nous avons lu, nous pouvons détacher trois notions. Être attaché à la parole de Dieu, avoir une vie de prière et s'éloigner des choses du monde. La sanctification se fait en demeurant dans la parole. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25-26, nous lisons « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » En effet, notre engagement envers Dieu et après notre engagement envers Dieu et notre nouvelle naissance, Christ continue notre sanctification par sa parole. C'est pour cela que Jésus donnait ordre à ses disciples dans Matthieu 28 d'enseigner ses paroles à ceux qu'ils ont, à ceux qu'ils auront baptisés. Dans Timothée, il est dit « Tout est sanctifié par la parole. Demeurez constamment dans la parole de Dieu n'est donc pas une option, mais c'est une obligation. Il nous est impossible d'avoir une vie de sanctification sans avoir une relation étroite avec Dieu. La sanctification s'opère donc aussi par la prière. Comme nous l'avons rappelé dans Timothée, tout est sanctifié par la parole et plus loin il continue par la prière. La prière est un pilier de notre vie chrétienne. Si je n'ai pas une vie solide de prière, alors je suis une proie facile pour l'ennemi qui pourra me ravir. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à prier sans cesse. Le Seigneur Jésus lui-même encourageait ses disciples en ces mots dans Matthieu chapitre 26, verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est donc par la prière que nous pouvons vaincre les multiples tentations qui nous envahissent chaque jour. Ici, on ne parle pas de motivation, ni de bonnes résolutions que nous pourrions faire au nouvel an. Il ne s'agit pas d'être motivé, non. Ici, nous devons avoir la force que la prière nous procure, la force que le Saint-Esprit nous procure pour tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. La sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. Rappelons-nous qu'être sanctifié veut dire être mis à part. Nous ne pouvons être sanctifiés si nous conformons aux pratiques du monde. C'est une réalité. Des fois, on peut se faire plaisir en disant « Oh, mais quand même !» Non, la parole est claire là-dessus. Et ça peut être difficile parce que ça m'implique à faire des choix. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, et donc je suis obligé de me positionner en tant que chrétien. L'extrême n'est pas bon non plus, il n'est pas dit non plus de vivre reclus et de ne rester qu'entre nous en tant que frères et sœurs en Christ. Mais il faut comprendre ce que séparer du monde veut dire. Ça veut dire garder mon identité d'enfant de Dieu, que ma lumière ne soit pas altérée par l'obscurité du monde. Et pour cela, il est donc vital de rester connecté continuellement avec Dieu. La parole nous met en garde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En effet, il est impossible de vivre la sanctification en continuant à embrasser les pratiques mondaines, que ce soit dans la musique, les réseaux sociaux, le cinéma, et cela inclut de faire des choix dans mes relations. L'Éternel nous donne cet ordre contre le monde. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Prenons donc garde à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que dira notre bouche et à qui nous côtoyons. Nous ne nous cachons pas vraiment de cette réalité. Chassons les compromis de notre vie et affermissons-nous dans la parole. Cette exhortation est pour avant tout moi-même. Elle me fait rappeler à quel point je peux être faible et que je dois continuellement m'en remettre au Seigneur pour ne pas tomber. Et j'aimerais vous illustrer cela par un triste témoignage qui me touche beaucoup, mais c'est une réalité, comme je vous l'ai dit. Parfois, on peut dire que Satan ne ravit pas nos frères et sœurs en Christ, mais il arrive que nos amis, nos frères peuvent tomber. Et c'est ce que j'ai vécu personnellement. Mon meilleur ami, mon frère en Christ, a été happé par ce monde. À tel point que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Michael, ne me parle plus de Dieu, c'est fini. Je ne crois plus. Tout ça, ce n'est plus pour moi. » Et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Mais je sais que Dieu veille sur ses brebis. Et je prie pour lui. Mais pour moi, c'est un rappel qui m'encourage à veiller sur l'état de mon cœur. Et ce que je vous ai témoigné, je pourrais vous en témoigner de d'autres cas, d'autres amis, d'autres frères qui ont suivi cette même voie. Et ce qui fait que ce témoignage n'est pas une exception, c'est une réalité. Si nous sommes exposés à des films, à des choses qui ne nous édifient pas, mais qui font la guerre à notre âme, il est certain que nous ne serons pas assez forts pour résister aux tentations. Connaître nos faiblesses nous aide aussi à fuir certaines choses afin de nous préserver, surtout en ce qui se concerne de l'impudicité. Remarquez dans la Bible qu'il est dit « fuyez l'impudicité » et pas « résister à l'impudicité ». Fuir des fréquentations, des endroits ou des choses tentantes nous préserve. Ce n'est pas de la faiblesse, mais bien de la sagesse. Alors, pour conclure, à l'image des disciples, Dieu nous envoie, il nous appelle à la lumière, à être la lumière du monde. Il nous appelle à être des témoins, partager son enseignement et faire des disciples. Nous sommes très loin du constat initial où il faudrait uniquement faire des œuvres pour satisfaire notre Père céleste. Bien au contraire. J'en reviens au verset de Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset vient reprendre la globalité de tout ce que nous avons vu. Et c'est cet appel qui a été laissé aux disciples et qui nous est laissé. Les disciples ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ils ont suivi ses enseignements et ils sont allés porter le message de l'Évangile. Et au travers de ces paroles, nous pouvons compléter le titre de notre prédication. Et nous pouvons dire que Dieu nous appelle à le suivre, Dieu nous appelle à la sanctification, et Dieu nous appelle à être ses témoins. Notre vie de foi doit s'inscrire dans cette voie. Elle ne doit pas se contenter de faire et d'agiter les bras, mais elle doit être. Être en relation permanente avec le Christ par la force que nous donne le Saint-Esprit. Lui-même qui nous donnera le discernement de nos dons et de notre vocation et permettra, selon le dessein de Dieu, de prendre part à son œuvre. Et vous voyez que mon action arrive au bout de la chaîne. Et ce que je dois faire, premièrement, c'est de rechercher Dieu et d'être en relation avec lui. Parfois, nous sommes à une place que Dieu n'a pas choisie, mais que nous avons pris par nous-mêmes. Et souvent, c'est pour des bonnes raisons, des raisons qui nous semblaient bonnes à la base. Mais est-ce la volonté de Dieu? Parfois, nous pouvons trouver le temps long et nous sommes humains, nous voulons agir à la place de Dieu. Mais n'oublions pas que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et que ce temps terrestre est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Car Dieu, par sa grâce, nous a associés à son œuvre. Nous, être imparfaits, il souhaite accomplir ce dessein parfait avec nous. Alors oui, ça prend du temps. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est travailler notre cœur, travailler notre sanctification, de rester en communion avec le Seigneur, de veiller les uns sur les autres, et Dieu fera le reste. Car il n'y a qu'une seule gloire, c'est celle que le Seigneur nous a accordée par sa grâce. Alors que nos actes, que nos vies reflètent l'œuvre du Seigneur, que notre vie de sanctification prenne un nouvel élan à la lumière de sa parole, que notre marche, qui est plus ou moins avancée, continue ou reprenne un élan si elle est stoppée. Que le Saint-Esprit vienne continuellement travailler en nous, qu'il nous apporte amour, discernement et sagesse. Frères et sœurs, que notre vie de sanctification soit réelle et que nous puissions vivre et proclamer cette vérité. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous nous inclinons devant toi et devant ta toute-puissance. Ta lumière est venue jaillir dans les ténèbres pour nous délivrer de mon péché. Tu as tout donné pour me racheter, car ta grâce n'a pas de limite. Nous sommes conscients de nos faiblesses et nos manquements, et pour cela nous te demandons pardon. Nous te demandons par le Saint-Esprit de purifier nos cœurs. Seigneur, nous souhaitons être à ton image et continuer notre marche pour t'être agréable. Que ton nom soit loué et que toute gloire te revienne. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.